suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En 2013, l'administration locale chargée de l'ensemble des établissements scolaires publics de la ville de Chicago annonce la fermeture à la rentrée suivante de dizaines d'écoles qu'elle estime en situation d'échec, d'écoles dont elle considère qu'elles sont mal utilisées. Une jeune sociologue qui a grandi à Chicago et enseigné dans l'une de ces écoles, appelée à fermer, prend la nouvelle comme un choc et décide d'enquêter. Cela donne, quelques années plus tard, « Ghost in the Schoolyard », des fantômes dans la cour, pourrait-on traduire le titre de ce livre qui apparaît déjà comme un classique contemporain de la sociologie, un livre à traduire, encore pas disponible en français, mais l'auteur, Yves Ewing, est aujourd'hui à Paris et l'invité de la suite dans les idées. Et c'est une romancière, mais enseignante, elle aussi, dans le nord de Paris, de la banlieue parisienne, Chloé Cormon, qui nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission, pour parler de questions qui font écho à celles que traite Yves Ewing dans son livre sur la ségrégation raciale dans le système scolaire américain, et en particulier dans cette ville de Chicago. Bonjour Yves Ewing.
Good morning, bonjour, ça va?
Très bien. Vous avez grandi, donc je le disais, dans le South Side, comme on dit, hein, ce quartier qui est juste au sud du cœur historique de Chicago, et fait plus rare, non seulement vous y avez grandi, mais vous y êtes resté comme académique, comme on dit, aujourd'hui assistant professeur au département d'administration sociale de l'Université de Chicago, où vous enseignez la sociologie. Mais avant ça, vous avez enseigné dans des écoles élémentaires pour des jeunes enfants dans ce même quartier. Et comme je le disais en ouvrant l'émission, vous avez été particulièrement choqué par cette annonce. Vous n'avez pas été la seule à être choqué par cette annonce de fermeture d'école. À l'époque où vous recevez la nouvelle, vous n'êtes plus enseignante dans une école. Vous avez repris des études. Vous êtes en train de préparer une thèse de sociologie. Peut-être pourrions-nous commencer par ce moment et vous pourriez nous expliquer comment vous avez reçu cette nouvelle annoncée par cette administration, mais aussi par celui qui était devenu le maire de Chicago, quelqu'un qu'on connaissait comme l'un des collaborateurs de Barack Obama, Rahm Emanuel.
So, thank you so much for having
Merci beaucoup de m'avoir invité.
And one small correction is that I actually did not grow up on the
South Side. En réalité, j'ai pas vraiment grandi dans le South Side, mais j'y ai enseigné, j'y ai vécu.
Part of my attachment to the
city. Je suis attaché à ce quartier de Chicago parce que ce quartier joue un rôle culturel très important pour les Afro-Américains. J'imagine qu'on en parlera par la suite. Mais pour répondre à votre question, je rendais visite à mon père ailleurs aux États-Unis. J'ouvre le journal et je vois la liste d'écoles devant faire l'objet d'une fermeture à Chicago. J'étais choqué, vous l'avez dit, parce que le vocabulaire utilisé pour décrire ces écoles était sous-exploité, comme vous l'avez dit, mal exploité, ou alors manquant de ressources. Et c'était très étrange dans mon esprit, ça a créé une espèce de dissonance cognitive. En effet, parce qu'il y a des gens qui sont chargés de répartir les ressources et qui critiquent les écoles parce qu'elle manque de ressources. Donc, c'est l'arroseur arrosé, c'est bizarre. Et l'explication officielle donnée n'était pas logique dans mon esprit et par conséquent, j'ai voulu mener une enquête pour moi-même, trouver les bonnes explications.
Alors, je le disais, vous n'avez pas été la seule à réagir parce que la bonne nouvelle, en quelque sorte, après cette annonce, cette terrible mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, ça a été que la mobilisation des populations concernées, des gens qui habitent dans ce quartier ou dans ces quartiers de Chicago, a été spectaculaire. Elle a pris des formes diverses, de grève de la faim, de manifestations de rue, mais en tous les cas, une mobilisation politique spontanée a vu le jour et faisant la démonstration immédiatement que, loin de s'en fiche, ces gens tenaient à leurs écoles, que ces écoles comptaient pour eux, au-delà de la mauvaise réputation peut-être qu'elles avaient.
Oui, votre analyse est très bonne. Et l'une des grandes questions que je pose dans ce livre, c'est qu'est-ce que ces écoles? Est-ce qu'une école réussit? Est-ce qu'une école est en situation d'échec? On peut poser une question s'agissant de nos communautés, de nos quartiers, où que l'on vive. Il y a des endroits à Paris ou à Chicago qui sont considérés comme des mauvais quartiers, où les gens ne sont pas sympas dans ce quartier, et ainsi de suite. Mais les gens qui vivent dans ces communautés sont en fait des gens qui font face à des défis, à des réalités qui sont les leurs. On se rend compte quand on vit là et on trouve certaines valeurs, évidemment. S'agissant des écoles, je pense qu'un grand nombre de personnes attachées à ces écoles reconnaissent qu'il y a des problèmes. Mais quelle est la responsabilité de l'État, de l'Illinois en l'occurrence, ou du gouvernement fédéral, des responsables politiques pour trouver des solutions à ces problèmes si profonds qui sanctionnent les gens qui vivent là. Donc il y a des inégalités liées aux questions raciales ou aux questions de rémunération qui transparaissent dans tout ça. Aux États-Unis, les institutions publiques ont fait l'objet d'une érosion brutale et les écoles publiques constituent le déversoir des autres problèmes, la pauvreté, la faim, les addictions, les problèmes de logement, les problèmes de santé mentale, et ainsi de suite. Tout cela, ça se retrouve dans ce creuset de problèmes qui est l'école. Donc les institutions publiques, c'est justement où les responsables politiques essayent de trouver des solutions. Et punir les enfants, sanctionner les enfants en raison de la mauvaise gestion, c'est totalement injuste.
Alors peut-être, Yves Ewing, vous pourriez nous expliquer à quoi ressemblait l'école dans laquelle vous étiez enseignante. De quel type d'école s'agissait-il? Qui étaient les élèves que vous aviez en face de vous? Qui étaient les collègues avec lesquels vous travailliez? À quoi ressemblait le bâtiment, par exemple?
Yes, so I think that there are two ways of answering this question.
En fait, je pourrais répondre à cette question de deux façons. Je pourrais passer en revue la liste de critères. J'ai enseigné dans une école qui était entièrement constituée d'élèves noirs. Leurs parents ne gagnaient que très peu d'argent dans un quartier considéré comme peu sûr, pas un chouette quartier. Et bien souvent, lorsque j'étais devant les gens, je disais, j'enseigne, et on me disait, où enseignes-tu? Et quand je disais, oh là là, mais tu es une sainte, Mère Teresa, quel ange d'aller enseigner, nous sommes très reconnaissants, merci beaucoup de vous dévouer ainsi. Alors bon, c'est sympa de dire ça, mais c'est une espèce d'insulte quand même, hein, parce que le sous-entendu en creux, c'est que ces enfants sont si difficiles, si dangereux. Voilà le préjugé. Alors tout ça, c'est des stéréotypes charriés par les médias, et puis il y a une très grande ségrégation. Chicago est malheureusement connu pour ça. Et bien souvent, pas mal de blancs aisés ne connaissent pas ces quartiers difficiles, défavorisés de Chicago. Moi, quand je pense à mon école, je ne pense pas en ces termes. Moi, je pense qu'il y a des enfants brillants pour certains, des profs dont certains sont géniaux, le bâtiment, lui, historique est magnifique. Et nous, en tant que chargés d'enseignement, nous avons essayé de donner une chouette expérience aux enfants, au-delà des problèmes de restriction budgétaire qui étaient nôtres. Par exemple, moi, j'essayais de dégager des fonds pour avoir des cours de français, organiser des pièces de théâtre et ainsi de suite. Difficile dans mon école, plus facile dans d'autres écoles. L'opéra lyrique de Chicago est venu dans notre école par les efforts des enseignants. Donc on essaye de faire vraiment de notre mieux. On se débat pour les enfants. Mais en réalité, ce qui préside, c'est l'amour, le sens de la collaboration entre les enseignants, tout ça au bénéfice des enfants.
Alors vous avez commencé par dire que vous auriez pu souligner que tous les enfants de l'école étaient noirs, par exemple. Et quand on vous lit, quand on lit votre livre « Ghost in the Schoolyard », vous donnez assez rapidement des chiffres sur la proportion d'élèves noirs, d'enseignants noirs, etc. Et quand on vous lit comme français, on est frappé par ces chiffres, puisque ce sont des chiffres que par définition, nous n'avons pas en France, que nous ne pouvons pas avoir en France. Et du coup, une partie de la réalité sociale nous échappe, parce qu'elle n'est pas objectivée dans des statistiques. Comment vous percevez cet écart, au fond, Heavy Wing?
Yes, you know, that's something that I remember learning about for the first time when I was in university.
Ce fait à l'université.
That has quite frankly shocked me ever since.
Moi, je trouve ça assez choquant en réalité.
The ways in which French culture and American culture
la culture française et la culture américaine sont différentes de ce point de vue-là. Moi, je m'intéresse aux questions raciales et je trouve ça très frappant.
Et
il y a tout un contexte historique dans lequel s'ancrent ces perceptions et ces façons d'analyser les statistiques. Aux États-Unis, on pense qu'il faut, certains disent, il faut arrêter de mesurer ces différences, ces clivages. Et il y a d'autres qui disent, évidemment, lorsque l'on met les chiffres noirs sur blanc, eh bien, on ne fait qu'accentuer les problèmes. Mais la France a une histoire de colonialisme, les États-Unis ont les États-Unis ont un passé d'esclavage, de génocide des peuples autochtones. Donc, qui a raison, qui a tort? Surtout, des centaines d'années plus tard, il faut quand même se dire que l'histoire a quand même un rôle. Donc, il est difficile d'avoir une conversation honnête et juste sur la racine des inégalités. Mais il faut mesurer, à mon avis. C'est vrai pour les difficultés de rémunération selon le genre, selon les inégalités des chances dans le domaine de l'éducation. Et moi, je pense que mes collègues sociologues pensent à des moyens créatifs de mesurer les choses. Mais la recherche qualitative en sociologie a quand même son mot à dire. Il faut pouvoir mesurer les choses, produire des statistiques, et il faut alerter les gens sur la réalité des choses. Mais en tant que chercheuse et qui fait de la recherche qualitative, j'organise des entretiens avec des gens, je fais des observations qualitatives, mais cela est adossé à des chiffres. 88% des élèves concernés par ces fermetures d'école sont des élèves noirs. Ça, c'est un point de départ de mon étude, de mon enquête. Et c'est important de savoir un certain nombre de choses. Et je pense que c'est une bonne phrase d'ouverture que de dire cela. Et donc, moi, je voudrais connaître les solutions créatives pour refléter la réalité dans des environnements différents de ceux des États-Unis, notamment en ce qui concerne la France.
Alors, vous parliez méthode. Comment avez-vous déployé cette enquête? C'est un livre assez bref, mais très dense et qui mobilise des méthodes sociologiques variées, en fait. À la fois des analyses statistiques, mais aussi des entretiens, de l'observation ethnographique. Comment vous avez peu à peu conçu cette enquête, Evie Wing?
That's a great question, thank you.
Très bonne question, merci.
I think that, it was important for me to
pour moi, il était important d'aborder la question de manière holistique. Et un des défis dès le début, c'était la chose suivante. Moi, je suis professeur, je veux être respecté par mes collègues, je veux monter dans la hiérarchie de l'université et en même temps, je veux que mon livre soit lisible du plus grand nombre. Et d'un point de vue moral et éthique, c'était important pour moi que les gens les plus touchés puissent pouvoir le lire, ce livre. Autrement dit, il fallait que j'aborde la question par différentes méthodes pour être convaincante. S'agissant de la genèse du livre, ça c'est important. Donc j'ai d'abord fait beaucoup d'analyses de documents. Ensuite, j'ai voulu faire entendre la voix des gens les plus touchés grâce à des analyses de réunions publiques, des choses comme ça. Et au bout du compte, ce que j'essayais de faire, certains de vos auditeurs connaissent peut-être The New Jim Crow de Michelle Alexander, livre qui retrace la relation entre l'esclavage dans l'histoire des États-Unis et les incarcérations de masse dans l'histoire contemporaine. Ce livre a été une grande inspiration pour moi parce que Michelle Alexander trace un récit très clair de telle sorte que les gens qui comprennent peu ou qui connaissent peu ce sujet peuvent avoir une bonne compréhension d'une idée sociologique assez complexe. Donc, de manière très humble, c'est ce que je voulais faire. Je voulais que les gens qui étaient préoccupés par cette question, mais qui avaient besoin besoin de munitions et d'arguments puisse en avoir par mon livre. En effet, quand on travaille dans la question politique, on n'a pas trop de temps de faire de recherche. Mais en même temps, je voulais que les gens préoccupés par la question et qui manquaient un peu d'éducation sur ce sujet puissent pouvoir s'interroger et se poser les bonnes questions grâce aux informations que je prodigue dans ce livre.
Des gens, il y en a beaucoup de présents dans votre livre et pas seulement des fantômes du titre. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre par une liste, par un casting en fait de ces voix que l'on entend dans votre livre. Il s'agissait aussi d'incarner véritablement ces choses.
Oh, that's a good question as well. I mean, in a sense, I am one of the people, right?
Moi, and so je suis sometimes when people ask me, how did you parfois get interested in this topic? Est-ce que vous êtes plongé dans ce sujet? Parce que moi, j'ai été dévasté sur le plan émotionnel par cette décision administrative. Et par impulsion, quand on est choqué, on essaye de comprendre. Je pourrais en parler au docteur Freud, il m'a allongé sur le divan, mais pour moi, il était important de faire face à mon propre deuil, parce que c'était une perte très importante pour moi. Donc j'ai parlé à certaines personnes pour rédiger ce livre, et bien souvent, au cours de nos entretiens, ces gens disaient, vous savez, moi je me sens isolé, seul, mais maintenant j'ai vraiment le sentiment que d'autres partagent ma préoccupation. Et dans le monde universitaire, on essaye de nommer les choses pour les légitimer. Donc, il y a beaucoup de concepts très importants dans l'éducation qui sont difficiles à expliquer. Mais en réalité, quand on nomme les choses, prenons l'idée de l'intersexualité, Kimberly Crenshaw, l'idée selon laquelle être une femme noire, c'est être au croisement des problèmes de genre et de race. Et ça donne une approche complètement différente du féminisme. Et désormais, ça porte un nom, ça. Et donc, on nomme les choses, et ma grand-mère, elle aurait pu vous expliquer ça de manière intuitive, mais quand on nomme les choses, quand on se crée une sémantique pour donner une légitimité aux questions que l'on se pose, eh bien, c'est vraiment une puissance très importante qu'ont les universitaires et les chercheurs, et nous ne devons pas renoncer à cela.
L'intersectionnalité. Donc en fait, Ivy Wing, vous, dans votre livre, vous revendiquez aussi dès le départ une subjectivité qui est la vôtre. C'est un livre académique, c'est un livre sérieux qui a été apprécié comme tel par vos collègues. C'est un livre qui va contribuer à votre carrière universitaire, mais vous vous cachez pas derrière une position qui serait l'objectivité avec un grand O. Vous revendiquez vos engagements politiques et ces engagements politiques ne vous empêchent en rien de produire une analyse pertinente de la situation sur laquelle vous vous êtes penché.
Oui, merci. Et cela constitue une des interrogations que j'avais quant à la réception du livre. Mais il faut être honnête quand on écrit, quand on couche des idées sur le papier. J'étais inspiré par l'héritage des intellectuels noirs, de Du Bois, Hurston, plus récemment des gens comme Kimberly Crenshaw ou Dorothy Roberts. Voilà des gens d'une grande honnêteté intellectuelle quant à leur position subjective. Et dans notre recherche qualitative, c'est vrai que la subjectivité n'est pas à exclure. Moi, je suis je me considère comme un penseur phénoménologique.
Et
à mon sens, personne ne peut être objectif. L'objectivité peut constituer un privilège social chez certains, notamment les hommes blancs, dans le contexte des États-Unis, les hommes blancs nés aux États-Unis, qui sont des citoyens américains et ainsi de suite. Et par exemple, si je suis chercheur et je traite des questions d'inégalité sociale ou en tant qu'économiste blanc et que je bénéficie d'un certain nombre de choses, par exemple les investissements de mes parents, mon héritage pécuniaire notamment et ainsi de suite, eh bien évidemment, de fait, je ne suis pas objectif si je m'intéresse aux inégalités sociales. Mais ce ne sont que les gens qui occupent un certain nombre de positions à qui on pose des questions. Donc moi, je pense que pour être honnête, il faut citer ses origines et c'est au lecteur de décider si je suis objectif ou non. Dans l'introduction, dans les quelques premières pages du livre, je dis, voilà, moi je viens de tel milieu, voilà mon parcours et vous, lecteur, lectrice, à vous de décider si je suis objectif ou subjectif. Voilà, c'est comme ça que je travaille.
Alors, il y a une autre chose importante, peut-être pour comprendre aussi la manière dont s'articule la dimension de recherche avec la dimension d'action sociale, c'est le contexte chicagoen dans lequel vous travaillez, parce qu'on n'est pas dans n'importe quelle ville aux États-Unis, ni pour la tradition sociologique, ni pour la tradition politique, Ivy Wing. On est dans une ville qui a su depuis longtemps articuler les deux, et c'est passé par la grande tradition sociologique de Chicago, et ses conséquences, au fond, sur la manière d'organiser les communautés. C'est là qu'est né le community organizing. C'est quelque chose dont on a pu entendre parler un petit peu quand Barack Obama a été élu, qui lui-même a pris part à ça. Le nom de Saul Alinsky, à ce moment-là, est apparu un petit peu dans l'espace public français. Mais peut-être vous pourriez nous expliquer dans quelle mesure, au fond, ces protestations contre la fermeture des écoles s'enracinent dans une forme de militantisme politique local qui est un peu propre à la ville de Chicago.
Oui, merci d'évoquer cette histoire. Moi, je suis de Chicago. Ma Chicago, c'est la ville la plus belle du monde. C'est chouette d'entendre des gens qui valident ce chauvinisme. Chicago n'est pas connu pour son humilité. Nous sommes très fiers d'être de Chicago. Bref, néanmoins, je crois que la tradition dont vous parlez remonte aux émeutes du Haymarket, l'origine des mouvements sociaux aux États-Unis. Saul Alinsky, par exemple, vous l'avez dit, et l'histoire méconnue des États-Unis. Martin Luther King, vers la fin de sa vie, après de nombreuses campagnes dans le Sud, pour lesquelles on le connaît, est allé à Chicago. Et là, il a dit, là, le racisme est beaucoup plus violent, il y a beaucoup plus de ségrégation. Et à Chicago, il parlait non seulement des questions raciales, mais de questions raciales dans l'éducation et la façon dont il fallait s'attaquer aux problèmes de pauvreté de manière holistique, en s'attaquant notamment aux questions de logement. Donc, cette histoire nous est très importante et elle s'articule, elle se reflète de manière très importante à l'heure actuelle. On a tiré beaucoup de leçons politiques de ces fermetures d'écoles. Ces fermetures ont lieu en 2013, vous l'avez dit. Si on se plonge dans la période entre 2011 et 2019, en 2011, il y avait une énorme grève des enseignants à Chicago, grève qui était un champ de bataille très important, un énorme mouvement aux États-Unis. En 2013, il y a eu ces fermetures d'écoles et bien sûr, en 2016, il y a Laquan McDonald assassiné, 16 balles dans le corps, tué par un officier, et le maire a prétendument joué un rôle pour couvrir ou dissimuler ce meurtre. Ce dont je vous parle, ça peut sembler des sujets qui ne sont pas liés, mais l'oppression se manifeste de nombreuses façons à des moments différents. Et c'est une lutte que les gens mènent. Il faut résister. Et voilà l'héritage qui mène à l'organisation dont vous avez parlé.
Alors justement, pour des Français qui sont un petit peu curieux de cette histoire politique de Chicago, de cette histoire intellectuelle de Chicago, il y a aussi une incompréhension parce que on fait le lien, on se dit le nouveau maire de Chicago est quelqu'un qui a travaillé avec Barack Obama, il est aussi le produit de cette histoire. Barack Obama était quand même un président intellectuel, comme on aimerait bien en avoir plus souvent à la tête des pays. Et pour autant, Rahm Emanuel a mis en œuvre ou continué de mettre en œuvre une politique qui ressemble à celle qu'on voit partout du New Public Management et qui conduit à ces fermetures d'écoles. Comment ça a été reçu? Est-ce que c'est apparu comme une forme de trahison pour beaucoup de gens à Chicago et au-delà, Ivy Wing?
Oh, what a terrific question, because I think that
ça, c'est une super Rahm question, parce que Rahm Emanuel, qui ne sera plus maire cette semaine, nous avons une nouvelle maire.
Il s'est récemment exprimé
en tant qu'éditeur au magazine Atlantique et en tant que tel, il publie un certain nombre de tribunes qui lui permettent d'enjoliver un peu son héritage. En fait, dans notre administration présidentielle actuelle, on ne s'intéresse pas vraiment aux faits, on peut dire n'importe quoi, et puis les choses se réalisent. Donc, la question de Barack Obama, c'est assez compliqué en réalité, parce que il a vraiment fourbi ses armes dans le cadre de cette histoire. Il a travaillé dans une autre communauté du Southside, au Kelly Gardens, qui était un petit peu plus au sud du quartier que je décris dans mon livre. Et aujourd'hui, ironie du sort, la Fondation Obama essaye d'apporter une nouvelle bibliothèque présidentielle dans le quartier du Southside. Et ce sont les mêmes protagonistes qui ont joué un rôle pour soutenir Obama et qui ont fait de lui un grand organisateur, disent aujourd'hui, bon, bah, si vous nous apportez ce centre, cette bibliothèque présidentielle, est-ce que vous allez embaucher des gens qui étaient d'anciens détenus? Allez-vous embaucher des jeunes qui sont au chômage dans le quartier? Les jeunes du quartier, est-ce qu'ils pourront aller à la bibliothèque? Où est-ce qu'on va stationner? Est-ce que le stationnement sera payant? Qu'allez-vous faire lorsque les touristes viendront et qu'il y aura une espèce de gentrification? Est-ce que les loyers vont augmenter? Donc, la Fondation Obama a signé un accord au bénéfice de la communauté. Il s'agit d'une promesse quant à la façon dont on va s'assurer que les nouveaux projets sont bénéfiques pour la communauté locale. Il y a des accords similaires dans d'autres grandes villes des États-Unis, s'agissant de stades ou de choses comme ça. Parce que c'est très facile lorsqu'on a un nouveau projet de dire « Ah, ça va créer des emplois !» Mais, oui, emplois, mais quel emploi? Et est-ce que les gens du quartier vont être qualifiés pour tenir ces emplois? Est-ce qu'ils sont suffisamment formés, qualifiés pour avoir accès à ces emplois? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont être encore plus l'objet d'une ségrégation parce qu'il va y avoir d'autres gens qui vont prendre ces emplois? Rahm Emanuel et Barack Obama vont peut-être avoir des convergences ou des divergences de passé. Et c'est là que se situe l'importance de cette organisation dans la communauté. Moi, je crois que lorsqu'on a un leader charismatique, c'est facile de croire dans une personne comme Barack Obama, grande source d'inspiration. Mais qu'est-ce que cette personne va faire? Quelle sera sa priorité politique? Et comment est-ce que cette personne va rester honnête? Il faut toujours avoir ça à l'esprit, parce qu'il va y avoir bientôt une nouvelle élection présidentielle aux États-Unis, et puis il faut évidemment se pencher sur ce que va faire notre nouvelle maire de Chicago.
Alors, sachant que je vous recevais aujourd'hui, Evie Wing, je me suis demandé quelle musique venant de Chicago on pourrait passer à la suite dans les idées. Évidemment, ce qui peut venir à l'esprit tout de suite, c'est peut-être l'album concept Illinois de Sufjan Stevens, mais c'était un peu facile et un peu ancien. Alors j'ai pensé qu'il y a peu de temps, j'avais déjà diffusé un morceau extrait d'un album magnifique d'un rappeur de Chicago qui s'appelle Saba, et on va avoir l'occasion de l'écouter à nouveau dans cette émission, un morceau qui s'appelle Life. Mais peut-être vous pourriez nous en dire un mot de Saba.
Oh, you know, if you had asked me for a
si vous m'aviez demandé un choix de musique, et j'aurais dit Saba. Trop génial que vous ayez choisi ça.
Saba,
c'est un rappeur incroyable qui vient du West Side de Chicago.
Saba
est connu comme poète et quelqu'un de militant dans la communauté. C'est un conteur hors pair. Il porte des émotions extraordinaires. J'espère que vos éditeurs vont aimer ça. Saba, c'est quelqu'un de formidable à Chicago.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
I got angels running away. I got demons hunting me. I know Pop with 25. I know Jesus 33. I tell death to keep a distance. I think he obsessed with me. I say God, that's the one. I know she would die for me. They want a barcode on my wrist. To auction off the kids that don't fit that description of a utopia. Like a problem won't exist if I just don't exist. If I grew up without a single pot to piss and pardon me for venting, Congress got the nerve.
Ghosts in the Schoolyard, des fantômes dans la cour, c'est le titre du livre dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Un livre signé par une jeune sociologue américaine, Eve Ewing, qui paraît aux prestigieuses éditions de l'université de Chicago, université où enseigne d'ailleurs Eve Ewing, et un livre donc sur une enquête sur les effets, les réactions après la décision de fermer, il y a quelques années déjà, de nombreuses écoles de Chicago dans certains quartiers en particulier. Et pour continuer cette conversation, j'ai invité Chloé Cormand. Bonjour.
Bonjour Sylvain Bourbon, bonjour Eve Ming.
Parce que vous êtes, on vous connaît comme romancière, le dernier roman paru c'est Midi il y a quelques mois, mais vous êtes aussi enseignante et vous êtes enseignante dans des quartiers, toutes choses égales par ailleurs, parce que la France n'est pas les États-Unis, mais qui peuvent ressembler à certains égards au quartier dans lequel a enseigné Ivy Wing, et des quartiers dans lesquels, comme enseignante, vous avez aussi mené des expériences en relation à la culture avec les élèves, et notamment vous avez co-signé avec les élèves et avec une collègue un petit livre qui faisait écho à cette magnifique exposition à la Maison Rouge sur les poupées noires, une collection
de Deborah Neff,
voilà, qui avait réuni un certain nombre de collections. Alors peut-être tout simplement pour commencer, Chloé, comment vous avez reçu le travail et sa présentation par Ivy Wing de cette situation américaine ? Est-ce qu'elle fait écho à des choses que vous rencontrez ?
Ah oui, très directement. Et d'abord, un premier atelier d'écriture que j'avais fait à la Courneuve en 2010. Et ce qui a résonné énormément pour moi dans votre livre, c'est cette idée de la mélancolie et du regret dans la disparition des écoles. Alors moi, il s'agissait pas des écoles, mais quand je suis arrivée en 2010 à la Courneuve, on détruisait les bars, c'est-à-dire les habitants, les bâtiments qui représentent le bannissement urbain, la pauvreté urbaine dans l'imaginaire public français. Parce qu'en fait, la disparition de ces bars, elle est très dure pour les habitants. Donc moi, cet atelier, c'était à la Courneuve. Et notamment, donc 2010... on était en train d'entamer les procédures pour détruire la barre Balzac dans la Cité des 4000. Cité des 4000 où il y avait eu en 2005, donc elle avait été traversée par les émeutes. Aussi les propos du président Nicolas Sarkozy, enfin à ce moment-là ministre de l'Intérieur, qui était arrivé après qu'il y ait eu une exécution, enfin une balle perdue qui avait tué un adolescent, qui était arrivé dans la barre, qui était allé voir les parents du garçon tué en disant « Mais aucun problème, j'imagine que vous n'avez plus envie d'habiter là, on va nettoyer tout ça au Karcher. » Quelques années plus tard, on détruit. Hein. Alors évidemment, on détruit, parfois on essaye de faire mieux dans le tissu urbain. La barre Balzac si massive, donc qui porte en plus le nom de cet écrivain, donc très symbolique dans l'imaginaire, mais peut-être aussi un petit peu imposé pour les habitants. On a commencé par évider certains espaces dans l'immeuble pour essayer d'amener de la lumière. Et puis malgré cette expérience, c'était toujours aussi sombre, aussi oppressant. Et puis on a décidé de la détruire avec des grues. Mais en fait, c'était un scandale pour certains habitants. Dans une perspective historique, hein, si on se penche sur ce lieu comme un lieu d'histoire, il y a des gens qui sont arrivés là.
Il y a un attachement très fort.
Grâce à ça, ils ont quitté les bidonvilles. Dans ces appartements, ils ont eu leurs enfants, ils ont eu leurs petits-enfants. En plus, dans un contexte où on détruit les bars, mais il y a aussi des gens qui sont à la rue. Donc, cette solution de vouloir effacer, elle est très contestable.
Et elle est violente.
Et en tout cas, elle peut pas se faire comme ça, sans une consultation des habitants. Il y a une chose qui m'a énormément touchée dans ce que vous avez dit quand vous comparez les moyens et les méthodes des sociologies françaises, américaines, en disant on peut pas juger parce que ces méthodes aussi ont leur histoire. Évidemment, en France, on n'use pas des statistiques. Mais vous avez dit, au moins, on pourrait faire raconter les gens. Mais ça, on le fait pas. Voilà, et c'est ça aussi l'origine de ma démarche, sachant que moi, avant d'être prof dans ces quartiers, je suis romancière.
Ivy Wing, est-ce qu'il y a, j'imagine, des expériences comparables qui concernent cette fois non pas nécessairement des écoles, mais des bâtiments de ce qu'on appelle public housing qui ont été détruits et provoqué des réactions comme celles que vient de décrire Chloé?
100%, and I think
j'entends très bien ce que vous dites. Et jusqu'à présent, dans cette conversation, une chose qu'on n'a pas évoquée, mais en réalité, dans mon livre, je parle beaucoup de logement. En fait. Et précédemment, nous avons dit que l'une des justifications de la fermeture des écoles, c'était le fait qu'elles n'étaient pas bien exploitées. Autrement dit, elles avaient été conçues pour un grand nombre d'élèves et qu'il y avait eu une baisse vertigineuse du nombre d'élèves. Mais pourquoi? Parce qu'on a détruit des logements, justement. Voilà, on y revient. Donc à Bronzeville, la communauté que je décris, il y avait des milliers et des milliers d'appartements,
that were highly concentrated.
de ces projets où étaient concentrés des milliers et des milliers d'enfants. C'est pourquoi les bâtiments scolaires avaient une telle capacité. Et évidemment, lorsque ces bâtiments, ces immeubles d'appartements ont été détruits, évidemment, il y a eu moins d'enfants dans les écoles. Et pourtant, on n'a pas tenu compte de cette histoire. C'était à peu près la même époque. Ça a commencé en 2000 à Chicago et ça continue encore un peu aujourd'hui. Et une grande partie de la démolition de ces immeubles a eu lieu entre 2000 et 2010. Donc on parle de la même période. Il y a un parallèle entre la Courneuve et Chicago. On n'en parle pas. Quelle malhonnêteté intellectuelle. Donc l'importance d'aller voir les gens pour qu'ils relatent leur expérience, leur vécu, c'est fondamental. Parce qu'il faut comprendre que lorsque l'on a créé une construction sociale, mais aussi tangible, des bâtiments, eh bien, c'est socialement irresponsable de dire « Oh non, c'est pas bien, on efface », sans donner aux gens la possibilité de contribuer à leur destin et de leur proposer des solutions viables, parce qu'on ne peut pas balayer d'un trait de plume toute l'histoire qui précède. Et moi, je commence un autre livre, parce qu'aux États-Unis, il est très d'utiliser le terme « inner city », donc les quartiers urbains centraux, donc ou pas forcément les quartiers les plus faciles. Mais « inner city », ça veut dire, c'est un euphémisme pour dire ghetto, bidonville, les quartiers où vivent les pauvres, les gens mauvais, et ainsi de suite. C'est le contraire du concept des banlieues en France, et des villes comme le Cap, Rio, Paris, sont des villes où la pauvreté est à la périphérie du centre-ville. C'est le contraire aux États-Unis. Donc, il y a cette divergence historique. Mais aujourd'hui, à Chicago et dans d'autres villes, comparables aux États-Unis de ce point de vue-là, les gens riches ont décidé qu'il fallait réinvestir les centres-villes. Donc, ils reviennent dans ces quartiers qui étaient jugés de manière assez péjorative dans le passé. Et la démolition des anciens immeubles d'appartements jugés laids est à l'œuvre. Par conséquent, moi, je pense que de plus en plus des villes comme Chicago, San Francisco, New York, Détroit, Philadelphie, toutes ces grandes villes iconiques américaines vont de plus en plus ressembler à Paris, où il est beaucoup plus pratique de dégager la pauvreté à la périphérie pour essayer de l'oublier, de l'effacer.
Et comment vous rappeler que c'est aussi comme écrivaine que vous aviez à témoigner de ça et à faire entendre les voix. Il y a des enjeux d'écriture qui sont extrêmement forts. Ce qui est frappant dans le livre d'Iving, c'est que c'est à la fois un livre de sociologie extrêmement rigoureux, mais c'est un livre très très bien écrit aussi. Et d'ailleurs, on n'est pas surpris qu'elle publie des textes, pas seulement dans des journaux académiques, mais aussi dans l'Atlantique dont elle parlait tout à l'heure, ou le New Yorker, etc. Il y a un souci d'être lu au-delà du monde académique. Et c'est un enjeu que vous prenez en compte aussi, j'imagine.
Oui, alors notamment en ayant cette démarche, moi dans mon enseignement, de considérer que enseigner la lecture, c'est enseigner l'écriture. Et donc il m'est essentiel, alors même comme écrivain en fait, c'est un enjeu de me dire, si je veux continuer à écrire des romans, c'est évident que je dois réussir à intéresser des élèves à la littérature et que je dois les intéresser à ce que c'est que d'écrire, que de se projeter dans des fictions ou des textes littéraires, d'être dans une position vis-à-vis du langage qui est critique, qui n'est pas de l'ordre de l'évidence, etc. C'est une démarche critique qu'il faut vraiment construire en France, parce qu'en fait l'enseignement repose sur des corpus très autoritaires et pas du tout sur l'idée de mettre des élèves dans ce rôle d'initiative. C'est comme ça qu'une année où on se retrouve avec l'exposition Black Dolls à la Maison Rouge et qu'on enseigne à Bobigny, je dis « on » parce que
c'était tout ça a été mené. C'était votre cas donc avec
oui,
des
oui,
collègues.
Voilà. Et avec la commissaire de l'exposition, Nora Philippe, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de parler avec les élèves, de parler de racisme. Évidemment, en arrivant dans un collège à Bobigny, on n'a pas la statistique ethnique, puisque ça ne se fait pas en France, mais les préjugés sont là, et ça n'empêche pas qu'on sache que...
L'absence de statistique ne fait pas disparaître la réalité du fait social.
La réalité qui est qu'en fait, je suis devant des classes où il y a peut-être un élève blanc, ou peut-être deux par classe, hein, le reste du monde entier. Alors ça c'est fascinant. Donc, On leur parle, aux élèves, de cette exposition à la Maison Rouge. Ce qui m'a fait méditer, c'est l'idée de se demander, mais en fait, les systèmes de ségrégation raciale, est-ce que les racistes croient au racisme ? C'est très étrange. Hein. Donc la collection Deborah Neff, c'est une femme, une avocate à partir des années 60 qui a récupéré des poupées qui avaient été faites dans l'intimité par des femmes esclaves ou des femmes domestiques dans l'Amérique de l'esclavage, puis dans l'Amérique de la ségrégation de fait sociale. Donc des femmes qui étaient presque privées de vie. Hein. Elles avaient donc esclaves, elles étaient séparées de leurs enfants, elles ont fabriqué des poupées qui sont des objets étonnants parce que contrairement à ce qu'on fait d'habitude avec des poupées, c'est-à-dire des représentations de bébés, souvent c'est des portraits. Donc c'est peut-être un moyen de donner à un enfant la présence d'un adulte par le biais de cette représentation. Enfin, c'est très mystérieux en fait ce qu'elles ont voulu représenter. On a très peu de témoignages. On a ces poupées faites avec des matériaux très modestes. Et on a aussi le biais de photographies qui montrent des enfants avec ces poupées. Et par exemple, des enfants, souvent, elles étaient nurses, elles s'occupaient d'enfants blancs, quand bien même elles étaient séparées de leur propre famille. Et on voit souvent les enfants blancs bercent ces poupées noires. Parce que le lien affectif, donc c'est ça, on voit que la folie du système racial américain, le système est raciste. Ces femmes noires sont mises en esclavage ou dans des rôles de servitude, mais on leur confie ce qu'on a de plus cher, les enfants. Et ensuite, ils nouent des liens d'affection puissants avec ces nurses. Ils chérissent ces bébés noirs. Voilà. Donc tout ça raconte énormément de choses sur ce que c'est, sur le racisme et ses hypocrisies. Et ça a touché mes élèves. Hein. Ça leur a fait raconter aussi leur expérience du racisme. Donc ça, c'était fort. C'est-à-dire qu'on avait comme ça un objet transitionnel qui était cette exposition, qui était les poupées. Mais grâce à ça, ils ont parlé. D'abord, j'ai lancé le projet et je me suis dit, mais au fait, comment étaient leurs poupées quand ils étaient petits ? Et ben, alors il y avait des mères très militantes qui avaient réussi à trouver des poupées noires dans le commerce. Mais la plupart des petites filles, des petits garçons noirs ou de couleur, ils avaient eu des poupées blanches parce que c'est ça qu'on trouve. Il y a un jeune homme qui a raconté que la semaine d'avant, l'atelier, il s'était fait traiter de singe par un vieux monsieur quand il descendait du bus. Ou bien, c'est des choses plus discrètes, mais non moins violentes, mais qui prennent parfois avec humour. Quand on est arrivé à la Maison Rouge pour rencontrer le staff de l'exposition, il y a une jeune fille noire qui a demandé « Mais est-ce qu'il y a des noirs dans votre équipe ?» Évidemment, la réponse était non. Voilà, donc c'était aussi vraiment une façon de parler de la situation de la ségrégation sociale et raciale en France.
Et c'est vrai que de ce point de vue, les situations françaises et américaines sont assez différentes parce que vous disiez tout à l'heure, ces écoles où pratiquement tous les élèves étaient noirs, il y avait une proportion très très importante d'enseignants noirs aussi. En France, on n'est pas du tout dans la même situation. Il est le cas le plus fréquent est qu'un élève noir en France fasse toute sa scolarité sans avoir un seul professeur noir. Les seuls noirs qu'il voit à l'école sont les femmes de ménage ou les femmes qui travaillent à la cantine. Ivy Wing.
You know, I think that what you're talking about that is so powerful is really the
Vos propos sont assez poignants. Hein. Et en fait, vous parlez de se voir dans le monde et du pouvoir que l'on représente ou que l'on n'a pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait une poupée noire ? Il y a cette question de miroir. Moi, quand j'étais enfant, je voulais que ma mère voulait que j'aie des poupées noires, mais aussi asiatique. Mais il s'agit de voir la poupée comme un objet d'amour et d'humanité et une représentation de l'objet de l'attention. Même chose pour l'enseignant. L'enseignant a une autorité morale, une personne digne de confiance, et ensuite, par conséquent, il est important pour les enfants de toute race d'avoir des enseignants de toutes les races. Parce que qu'est-ce qu'on enseigne sur les relations de pouvoir si on a des enseignants qui sont tous de la même couleur. Et si les seuls noirs que l'on voit sont ceux qui nettoient par terre. Aux États-Unis, 84% des enseignants sont blancs. Et il y a 84% des élèves qui sont noirs. Donc, ces statistiques, à mon avis, sont utiles. Hein. Donc, vous avez impliqué des jeunes dans votre travail, mais comment pourraient-ils envisager d'être chercheurs, sociologues ? Peut-être qu'il faudrait qu'ils se plongent dans les statistiques pour savoir un petit peu les dynamiques sociologiques. En tout cas, vous avez tout à fait raison. C'est extrêmement poignant.
Merci beaucoup, Yves Ewing. Merci.
Merci.
Comment on trouve les références des deux livres, Ghost in the Schoolyard et Dans la peau d'une poupée noire, sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture. Vous pouvez également réécouter l'émission sur cette page et vous abonner au podcast. Voilà, c'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Chouchane Djergaillon. À la technique, Julien Douminc. À la réalisation, Anne Pérez Franchini. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez tout de suite sur l'antenne de France Culture.